Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Allez, place à une demi-heure de débat jusqu'à 19h avec Marie-Virginie Klein. Bonsoir.
Bonsoir.
Conseillère en communication, auteure de Femmes dirigeantes. Comment elles ont osé aux éditions Plomb. Et bonsoir à Eduardo Riancipel.
Bonsoir Pierre.
Porte-parole de Territoire de Progrès dans la majorité. Donc, premier jour de gouvernement après encore quelques passations de pouvoir, dont une notable qui s'est achevée il n'y a pas très longtemps à l'hôtel de Lassay, au Quai d'Orsay, entre Catherine Colonna, une nouvelle arrivante, et qui remplace Jean-Yves Le Drian. Ce qui nous intéresse quand même, c'est ce déplacement d'Elisabeth Borne, à peine nommée première ministre. Elle est, comme le soulignait Cédric Villani, et ils sont, pas s'en offusquaient, mais en tout cas ils s'en étonnaient, de voir qu'elle est en même temps candidate aux législatives dans le Calvados. Elle est déjà sur le terrain. Et ses premières mesures sur le pouvoir d'achat, premier projet de ce gouvernement, concerne le pouvoir d'achat, Marie-Virginie Klein.
Oui, c'est une transition assez brusque par rapport au quinquennat précédent. Souvenons-nous de l'état d'esprit dans lequel on était il y a 5 ans. On était en train de fonder la Startup Nation, on était dans une société en pleine croissance, on était dans une France conquérante. Et là, aujourd'hui, tout se retourne un peu. Bon, d'abord, au passage, il n'y a pas de secrétaire d'État au numérique. Hein.
Il y en a plein qui manquent. Il n'y a pas de ministre des Transports.
Oui,
il n'y a pas de.
Bon, oui.
Voilà.
Pas de et
des PME.
La priorité de ce nouveau gouvernement, c'est celui de la protection des Français, du pouvoir d'achat, etc. On change vraiment de cap et de philosophie assez générale. Et c'est vrai que c'est assez flagrant. Je regardais aussi les sondages publiés. La première attente que les Français ont à l'égard de ce gouvernement, c'est l'écoute. C'est l'écoute. Donc l'écoute, ça va vraiment avec ce désir de reconnexion, de se mettre à la hauteur des attentes des Français, de se mettre dans le caddie des Français et de se mettre à la place de ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à boucler leur course à la fin du mois.
Eduardo Riancipel, d'accord avec ça ?
Je pense qu'on a un gouvernement qui va désormais se mettre au travail pour répondre aux priorités des Français et à celles qu'a fixées le président de la République. Je crois qu'on a une première ministre qui est professionnelle, qui a l'expérience du pouvoir et de l'exercice du pouvoir, qui en plus va chercher le suffrage populaire des citoyens pour avoir la légitimité électorale. Je crois qu'on a les deux jambes sur lesquelles doivent marcher les hommes et les femmes politiques. On a le gouvernement qui est en place. Et je crois qu'on va tenir les deux objectifs qui sont importants pour le président de la République, et pour tout pouvoir d'ailleurs, des objectifs du quotidien, de la vie immédiate. Et Elisabeth Borne a annoncé hier à la télévision que, effectivement, la première loi qui serait votée à l'Assemblée nationale, si les Français décidaient d'accorder une majorité pour le camp du président de la République, ce serait une loi pour le pouvoir d'achat, avec plein de choses qu'on peut détailler, très concrètes. Mais en même temps, objectif du quotidien d'une part, objectif stratégique de long terme, et je pense en particulier à la planification écologique d'une part, oui, et la planification
avec
écologique
ce
d'une part. C'est très important,
oui,
parce que vous savez, un pouvoir concret, et je rejoins ce que vient de dire Marie-Virginie Klein, avec lequel je suis en plein accord, c'est frappant, cette question de l'écoute comme une priorité quand on fait des sondages et des enquêtes auprès des Français. Je crois que derrière cette demande d'écoute, c'est tout simplement une attente des Françaises et des Français qui veulent que le pouvoir, que le nouveau gouvernement réponde à leurs besoins concrets. Et on sait en ce sens que le pouvoir d'achat est une attente immédiate, première, prioritaire. Et je veux dire que le gouvernement sera à la tâche là-dessus. La Première ministre l'a encore rappelé. Priorité du gouvernement, premières mesures qui seront annoncées dès le mois de juillet pour répondre à ces objectifs du quotidien.
Mais est-ce que vous êtes en plein accord, comme vous dites, avec Marie-Virginie Klein, qui dit qu'on n'a plus la Startup Nation ? C'est fini. C'est le rêve est brisé, le Louvre, les annonces de cette nouvelle ère, de ce nouveau modèle politique.
Moi, je crois que c'est très bien.
On est dans la continuité, le pouvoir d'achat, n'importe quel gouvernement aurait pu faire ça.
Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne chose, en tout cas, que ce ne soit pas mis en avant cette affaire de Startup Nation. Je crois qu'elle correspondait d'ailleurs pas du tout à la vision qui est celle du président de la République.
Ah, donc vous avez faux, Marie-Virginie.
Non, pas Marie-Virginie Klein du tout. Elle reprend d'ailleurs toute l'exégèse qui était celle du quinquennat précédent et de la première campagne. Elle ne parle pas à partir de rien, elle parle à partir de quelque chose qui avait été en effet revendiqué par la majorité précédente d'Emmanuel Macron. Je pense que la pensée d'Emmanuel Macron, sa vision de la France est davantage dans un esprit gaullien. C'est comme ça que je crois qu'il a mené cette campagne. C'est comme ça qu'il envisage ce quinquennat. C'est pour ça qu'il met la question de l'autonomie stratégique souveraineté de la France, souveraineté de l'Europe. D'ailleurs, c'est frappant, il a mis dans les intitulés même des ministères qu'il vient de nommer avec la première ministre. Vous avez le ministre de l'économie, mais aussi de la souveraineté industrielle et numérique. Vous avez le ministre de l'agriculture, aussi en charge dans l'intitulé de la souveraineté alimentaire. Je crois que ce sont des marques d'intention très concrètes. C'est une vision qui n'est pas du tout en effet celle de la Startup Nation, ouais, mais plutôt d'une France gaullienne qui veut construire l'autonomie stratégique de la France, mais aussi de l'Europe, dans un monde compliqué, dépendant de fortes contraintes extérieures.
Marie-Virginie, sur ces labels justement que nous dessine Édouard Dorian-Sipel, vous êtes d'accord là-dessus ou est-ce qu'il manque un peu de piment, j'allais dire ?
Alors, ça manque pas. Il y a du piment, il y a des choses pour lesquelles on manque pas de piment et d'autres pour lesquelles il manque de piment. Il manque des secrétariats d'État, hein, quand
qui
même,
vont venir,
qui vont arriver. Donc, on n'est pas face à un gouvernement encore complet. En revanche, donc on va voir. En revanche, là où ça manque pas de piment, c'est sur certaines annonces et certains profils de ministres qui ont été choisis.
Ou comme qui ?
Bah, comme celui dont tout le monde parle depuis 24 heures, qui est le nouveau ministre de l'Éducation nationale.
Pas Fendiaï.
Ce nouveau gouvernement, c'est un peu un sans-faute, parce qu'il y a un savant équilibre entre droite, gauche, continuité, nouvelle génération, etc. Mais cette nomination, celle de Pap Ndiaye, on entend déjà un peu de partout, et même dans les rues...
On entend beaucoup de choses, hein.
Que c'est très 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 discuté et il y en a énormément qui bondissent de leur chaise. Donc ouais, d'un point de vue, comment dire, de mon point de vue qui est celui du communicant, il n'y avait aucune prise de risque dans toutes les annonces, mais celle-là, elle est vraiment très forte et je suis surprise qu'elle intervienne en pleine campagne pour les législatives. C'est-à-dire que le sujet du pouvoir d'achat intervienne pendant la campagne pour les législatives. Ce n'est pas très surprenant puisque on a bien vu que c'était ce dont parlaient essentiellement Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Qu'une nomination aussi, pardon, mais aussi risquée, intervienne avant les élections. Alors, soit c'est vraiment du pur électoralisme pour envoyer des signaux gigantesques au NUPES ou à Jean-Luc Mélenchon, etc.
C'est Stabilo Bossé, désolé, mais je cite une marque, mais c'est surligné. Voilà.
Extrêmement. Alors, c'est surligné, mais c'est pour l'électorat, on va dire, centriste et de droite, à mon avis, ça va enlever quelques voix.
Édouard Dorian-Sipel, Pap Ndiaye.
Je salue la nomination de Pap Ndiaye comme nouveau ministre de l'Éducation nationale. C'est un enfant de la République qui se reconnaît comme tel. Il l'a dit dès le départ.
Procès d'intention quand on dit qu'il est wokiste, indigéniste, qui va déconstruire les programmes, notamment d'histoire à l'école, etc.
Complètement. Complètement. C'est un délire total. Un procès d'intention bien intentionné par ailleurs de la part de ses accusateurs. Je veux me référer à deux choses. D'abord, il vient d'être nommé ministre. Il faut donc le juger dans ses actes et décisions de ministre de l'Éducation nationale. Ça, c'est la moindre des choses quand on est honnête et sincère. Parce qu'on peut être un historien, comme c'est son cas, brillant, normalien, un intellectuel engagé aussi, ce qui est son cas, avoir toutes les prises de parole passées que vous voulez, mais de ne rien tirer comme conclusion pour son action de ministre. Et par ailleurs, si on lit un peu son travail, son œuvre principale, je pense, c'est La Condition noire. J'invite chacun à la lire. Je regardais à nouveau pour vérifier, parce que je suis cartésien, donc je commence par le doute avant d'avoir des certitudes. Et donc je suis allé examiner. La Condition noire, me semble-t-il, ne serait-ce que par son titre, fait davantage référence à un héritage qui serait celui de André Malraux, La Condition humaine, de Jean-Paul Sartre, La Question juive, ou même d'un Raymond Aron sur les questions de la condition humaine et de l'existence de l'être humain dans le monde. La Condition noire est un livre où il dit très clairement, il suffit de le lire, il parle d'une expérience sociale qui n'est ni celle d'une caste, ni celle d'une communauté, ni celle, il appelle ça une minorité, c'est-à-dire un groupe humain qui subit un certain nombre de phénomènes dans la société, mais qu'il faut analyser d'un point de vue historique et social. C'est un enfant de la République. Et puis, laissons le ministre agir. Dernière chose, parce que je crois que c'est ça le sens que le ministre a voulu donner de sa propre place. Il a dédié et rendu hommage, dès sa première prise de parole comme nouveau ministre de l'Éducation nationale, à Samuel Paty,
oui,
qu'il a défini comme son collègue historien. Et je crois que son message est très clair, celui d'un enfant de la République attaché à la méritocratie, à l'école de la République, comme l'était Samuel Paty dans les combats qui étaient
les siens. Vous n'êtes pas d'accord avec Marie-Virginie quand elle dit que c'est un pari risqué, cette nomination ?
Bien entendu que je suis d'accord avec elle, elle n'a pas
porté de... Mais il faut prendre le risque.
Je suis totalement d'accord avec Marie-Virginie Klein. C'est un risque, c'est une décision forte, courageuse, osée, qui me tient à cœur aussi, parce que moi je suis
vous
un Français immigré.
Vous diriez plutôt osé que
qui est un symbole
risqué.
Fort. Elle est osée, comme toute décision.
C'est pas pareil, osée et risquée.
Oui, parce que d'ailleurs, on l'a vu immédiatement, M. Zemmour, faire tous les procès d'intention. On a
c'est
vu le flot d'injures abjectes qu'a subi Pap Ndiaye. Mais qu'on ait au moins le respect de lire un intellectuel, un historien, avant de se prononcer. Moi, je déteste cette démagogie, cet esprit
si ça se trouve, il l'a lu,
cynique.
On n'en sait rien.
Bah, s'il l'avait lu, il n'aurait pas raconté les sottises qu'il a racontées, M. Zemmour.
Et ça,
c'est un démagogue, un sophiste, un menteur. Donc, si on veut se référer à lui, non. Monsieur Ndiaye, on en pense ce qu'on veut. Nouveau ministre, d'abord un historien. Puis moi, je vais le juger comme ministre. Ce que je
on a dit, on jugerait sur les actes.
Il a d'abord rendu hommage à Samuel Paty. Je pense que le sens est très fort. C'est celui d'une République forte qui a besoin de se maintenir comme telle. À lui de se mettre au travail. Et c'est très important pour tous les enfants de France
aussi. Paris osé, Paris risqué. Évidemment, il y a les législatives en ligne de mire, avec un Jean-Luc Mélenchon qui, tous les jours, dit qu'il sera Premier ministre et que c'est un gouvernement d'intérim. C'est ça l'objet du pari, Marie-Jeanne Pain ?
Oui, je pense vraiment que... D'abord, on a attendu 4 semaines avant d'avoir le gouvernement. Et on a eu quand même plus de titres annoncés que ce à quoi on s'attendait. Donc, clairement, l'objectif, pour moi, c'est vraiment de servir un petit peu tout le monde. L'équilibre était bien maintenu. Moi, je pense quand même que, vous savez, l'opinion, c'est une question de cristallisation. Et là, ce qu'on observe depuis 24 heures, on va voir si ça se continue, c'est une cristallisation des esprits autour de cette nomination et partout. Dans différents cercles, que ce soit finalement dans l'opinion et puis à gauche, et surtout, avons-le, à droite. Donc c'est une cristallisation. On va voir, je suis d'accord, il faut laisser sa place au ministre dans son action et ne pas faire des procès d'intention, etc. Mais la politique, c'est une affaire de symboles. Et là, le symbole envoyé, c'est vraiment une façon de... D'abord, je pense que ça va être assez dur pour Jean-Michel Blanquer, parce que c'est vraiment, je veux dire, que ce soit sur le fond comme sur la personnalité, c'est un anti-Blanquer aujourd'hui qu'on a au gouvernement. Et donc, le message, il est vraiment, je pense, pour rassurer les professeurs qui ont eu quand même 5 années d'une politique de droite assez forte. Et donc, ça a envoyé un message inverse. Donc, je suis d'accord, laissons l'action faire ses preuves. Mais c'est aussi quelqu'un, encore une fois, qui n'a pas vraiment, je crois, d'expérience opérationnelle. Donc là, il va se retrouver à la tête de ce qu'on appelle le mammouth de l'éducation nationale.
Oui, ou l'usine à gaz.
Et l'usine à gaz.
Il y a plusieurs homonymes.
Donc c'est un intellectuel à la tête d'une structure comme ça. Je pense que c'est intéressant, mais effectivement, on peut sentir qu'il y a un gros challenge.
Je vais dans votre sens, parce que je crois en effet que le symbole et la dimension symbolique est une dimension essentielle de la politique depuis toujours. La politique se joue aussi de symboles, parce que c'est comme ça. Ça ne se réduit pas au symbole, mais ça compte. Et je trouve que le symbole de ce ministre, Pap Ndiaye, son nom, son parcours, ses origines, et aussi le travail qu'il a pu effectuer comme historien, et le parcours républicain qui est le sien, historien, école normale supérieure, donc le parcours de l'élite intellectuelle française, me paraît très très bien. Enfin, il a la même formation, encore une fois. Enfin, je veux dire, il a fait la même formation que Sartre, Aron.
Ouais.
Voilà, école normale supérieure, très important. Moi, je trouve que c'est très bien. Et moi, vous savez, moi, je suis un Français aussi immigré. J'ai pas du tout le même parcours, mais c'est celui de millions de Françaises et de Français. Je pense que ça parle à des millions et de millions d'enfants Françaises et Français de voir que des personnalités comme la sienne puissent aussi un jour devenir ministre. Ça peut créer des rêves. Ça peut créer des défis, ça peut donner des envies, créer du désir à des gens qui ne s'estiment pas être en situation d'accéder un jour à des postes de responsabilité. Si moi, quand j'étais gosse en France, j'avais vu des ministres aussi comme ça, ça m'aurait motivé, je pense, plus fortement. Et je pense que ça, c'est bien. De la même manière que la première ministre a dit dès sa prise de fonction sur le perron de Matignon, qu'elle dédiait sa nomination à toutes les jeunes filles de France et que chacune puisse penser qu'elles peuvent réaliser leur rêve. Ça paraît simple comme ça, ça paraît même un petit peu...
Ça a touché Marie-Virginie, un petit peu candide, qui a été une petite fille par le passé.
Mais moi, je crois aussi que quand on regarde le parcours d'Elisabeth Borne, qui est un parcours de la République méritocratique, qui a eu aussi une enfance avec une part de tragique terrible quand on regarde son histoire personnelle, en arriver là et dire ce qu'elle dit, c'est un message du cœur très chaleureux. C'est, je crois, ce que la France fait de mieux. Et ça aussi, ça ne change pas toutes les conditions sociales, mais ça donne aussi de la force. Et ça donne les intentions.
Alors, venons-en à ce projet de loi sur le pouvoir d'achat, puisque vous vouliez que je le détaille, le voilà. Un chèque alimentation, des mesures de bouclier tarifaire, la prolongation de la réduction des prix du carburant, la revalorisation des retraites, le triplement de la prime Macron et un leasing à moins de 100 euros par mois pour l'accession à une voiture électrique. Alors tout à l'heure, ça ne vous a peut-être pas échappé, mais nous avions la présidente de l'IFRAP, Agnès Verdier-Molinier, qui a sorti sa calculette et qui a dit, voilà, ça, ce sont des millions et des milliards d'euros en plus chaque année qui va creuser la dette, qui va sans doute accentuer les impôts qui pourront peut-être tomber. Là-dessus, Marie-Virginie Klein, d'accord, pas d'accord?
Alors, moi je pense qu'Agnès Verdier-Molinier, elle calcule très bien, donc je fais confiance en ses calculs. Je suis sûre que c'est des mesures qui vont coûter cher. Après, vous savez, c'est toujours une question de choix. Hein. Où est-ce qu'on choisit de dépenser si c'est là et justement pas ailleurs, comme dans l'économie numérique, par exemple. Ça annonce quand même, ces mesures, un quinquennat qui va être extrêmement difficile. On n'a plus la même croissance. Il va y avoir les effets collatéraux du coup de la crise Covid. On a la guerre en Ukraine qui va créer une inflation forte.
Qui est déjà là, hein, mais qui va continuer.
Voilà, la dette dont parlait sûrement Agnès Verdier-Molinier, qui va continuer de se creuser très fortement. On est face à une urgence à la fois climatique, un défi énergétique, une crise démocratique. En plus, le pouvoir d'achat, si vous voulez, ces réformes sur le pouvoir d'achat, c'est aussi peut-être d'abord pour préparer psychologiquement à... On anticipe que ça va être dur pour les classes populaires et donc on donne tout de suite ces aides avant que la crise n'advienne. Et puis en plus de ça, il va quand même essayer de mettre en œuvre la réforme la plus dure de toutes à mettre en place, qui est la réforme des retraites.
Qui sera conduite par Olivier Dussopt.
Ouais, et en plus, avec une Assemblée nationale, on va voir le résultat des élections, mais si les projections se confirment, qui va être... pas tout à fait docile, hein, avec quand même tous les députés NUP et RN. Ça va être quand même un sacré challenge. Et je pense que c'est en anticipation de ça que ces mesures ont été annoncées aujourd'hui.
Édouard Dorian-Sipel.
Bah, quand j'entends Madame Molinier-Verdier dans ses analyses et
Verdier-Molinier,
calculs...
Verdier-Molinier, mais bon.
Verdier-Molinier,
je vais vous appeler
Sipel-Riant. Oui, ça peut arriver. Je trouve plutôt rassurant, parce qu'on sait qu'elle est une intellectuelle et une chercheuse qui est plutôt libérale, très libérale. Ça montre du coup que si ça l'inquiète, c'est que la politique qui va venir n'est pas celle de l'austérité, ce qui est bien pour le pays et qui est bien pour les Français et qui va dans le sens de ce que Emmanuel Macron a décidé. Je pense qu'on ne peut plus avoir cette vision uniquement gestionnaire de la politique, à gérer la dette qui est importante, qui va faire l'objet bien entendu d'une préoccupation très importante du gouvernement. Mais on ne peut pas avoir la même pensée qu'on pouvait avoir éventuellement avant la crise de la pandémie et avant la guerre en Ukraine. Je crois qu'il y a eu un changement stratégique majeur au niveau européen, un changement de mentalité, un changement d'attitude. Quand la pandémie est venue, d'une part, c'était la politique du coup.
Qu'est-ce que vous cherchez à dire? Je ne comprends pas.
Qu'il faut de l'intervention publique, que la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne va soutenir les États et doit continuer de le faire pour qu'on mène les politiques stratégiques et qu'on réponde aussi aux besoins du quotidien. Ça veut dire qu'il faut avoir un peu plus de souplesse sur la question des 3% du déficit public, ce qui est le cas depuis la crise de la pandémie.
Oui, mais
que
c'est pas pérenne,
l'Europe
c'est pas, c'est
doit
pas
laisser
voué,
les
pérenne,
pays
ça.
Faire des investissements structurels pour le futur et qu'en même temps on doit mener les réformes pour faire la modernisation de notre État et des politiques publiques, mais qu'on ne peut pas avoir la tête uniquement sur le guidon de la dette de manière rigide,
si vous écoutez,
de manière
Thierry Breton,
fétichiste.
Qui est commissaire européen, qui est vraiment aucunement fétichiste, qui a dit qu'il faudrait de toute façon la rembourser. Et il l'a redit encore il n'y a pas très longtemps.
Mais on ne peut pas penser comme une famille française quand on est un État et quand on est une organisation politique comme l'Union Européenne. On regarde sur le très long terme, sur 80 ans, sur au-delà de 50 ans. On est sur une échelle de temps qui n'est pas l'échelle individuelle. Un État et les États
et l'Europe, nous sommes riches. Vous comprenez que la situation est compliquée alors que l'argent ne coûte plus zéro comme il coûtait il y a encore quelques mois.
Non mais l'inflation, elle est déjà là. Elle est moins forte d'ailleurs en France, par rapport à d'autres pays.
européen. Mais il y a un bouclier tarifaire.
Mais parce qu'en France...
Mais s'il n'y avait pas de bouclier tarifaire, elle serait à 10% l'inflation.
Mais ça vous montre que l'intervention du pouvoir, les décisions politiques du président de la République ont déjà protégé les Français sur les prix de l'énergie. La première ministre a rassuré les Français hier en disant, vous venez de le rappeler, que ce sera maintenu, ce blocage des prix de l'énergie, qu'il y aura d'autres mesures en faveur du pouvoir d'achat, relever les minima sociaux, relever les retraites, la prime Macron
triplée. La question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de mettre des déchets sous le tapis pour que personne ne voit rien, quoi.
Je ne crois pas. Je pense que c'est nécessaire. Je pense que s'il s'agit de sauver des vies humaines et de sauver la dignité des hommes et des femmes de notre pays en Europe, je pense que ça vaut mieux que la simple gestion de la dette au quotidien.
Marie-Virginie.
Non, moi, je pense qu'il y a une question de timing qui est très importante. Il lance ses réformes maintenant parce qu'il ne pourra plus le faire après. Là, on est dans une campagne. Il a d'ailleurs intérêt à le faire maintenant parce qu'on a bien vu que c'était la priorité des Français. Quand on parle de déchets sous le tapis, moi, ça me fait venir une autre idée aussi, c'est celle de l'écologie. Qui va être quand même l'enjeu du quinquennat à venir, et c'est d'ailleurs pour ça
double ministère, hein, avec en plus Elisabeth Borne qui chapeaute le tout,
ouais,
et qui a été ministre de l'écologie.
Alors justement, d'ailleurs, sur ce double ministère, moi, ça m'a un peu interrogée, parce que souvenons-nous, époque Sarkozy, le ministre de l'écologie, c'était Jean-Louis Borloo, c'était le deuxième dans l'ordre protocolaire, et deuxième grand ministère, parce que c'était déjà une priorité. Là, ce qui est étrange, c'est qu'en fait, on n'a pas un ministre, on a deux femmes. Alors moi, pardon, je prends mes lunettes, mais je suis obligée de le dire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir deux postes, en plus deux femmes, plutôt qu'une seule qui soit vraiment...
Parce qu'il y a le territoire d'un côté et les
Non, pas uniquement. Oui.
C'est quand même un débat. Est-ce que la vraie ministre de l'écologie, c'est pas Elisabeth Borne, finalement, et qui va se faire épauler par, d'un côté, la transition écologique, et d'un côté, la transition énergétique. En fait, Agnès Pannier-Runacher, qui prend la transition énergétique, c'était l'ancienne ministre de l'Industrie. Mmh. Donc finalement, c'est plus ou moins le même poste, c'est une autre façon de l'appeler. Et Amélie de Montchalin, qui est à la transition écologique, alors elle fait quand même un grand écart, parce que...
Elle part de la fonction publique.
Voilà, elle part de la fonction publique, et donc elle va apprendre. Ce dont on peut faire le pari, c'est que c'est quand même deux énormes travailleuses, d'ailleurs trois avec Elisabeth Borne. Les trois ont une feuille de route, et sont réputées pour être d'immenses travailleuses. Mais quand même, j'espère que ce triumvirat va fonctionner parce que c'est pas très très clair.
Ouais. Cédric Villani disait dans l'interview politique avant que vous n'apparaissiez dans ce studio que c'était une usine à gaz. En tout cas, un système très sophistiqué qui ressemblait à une usine à gaz. Voilà.
Bon, je ne comprends pas.
Édouard Dorian-Sipel.
Non, je crois que le grand chef des armées de la question énergétique et de la question écologique, ce sera de toute façon Emmanuel Macron, pour une raison simple, c'est que ce sont deux questions ultra stratégiques.
On en revient toujours à lui, c'est ça qui est formidable.
Mais en même temps, il est président, et on ne peut pas dire que les questions énergétiques, où elles sont éminemment géopolitiques, on n'a pas besoin de faire dessin avec la question de la guerre en Ukraine, et la question écologique sont extrêmement stratégiques, et tout ce qui est de l'ordre du stratégique relève du président de la République. Je pense que là, qu'on a une équipe et une armée en bataille, puisque vous avez le président qui va piloter ça de manière stratégique, vous avez une première ministre qui est en première ligne et qui a l'expérience en tant qu'ancienne ministre de l'écologie, et doublé des deux planificateurs écologiques d'une part énergétique. Je pense que la question énergétique, si on a à la déconnecter d'un ministère de l'écologie pour répondre à ce que vous disiez, c'est sans doute à la faveur de la situation terriblement dure avec la guerre en Ukraine et l'urgence sur les questions énergétiques.
Merci beaucoup à vous deux. Merci Édouard Dorian-Sipel. Merci Marie-Virginie Klein. Dans un instant, le journal de 19h avec Sophie Tussaud.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.